ya David Mangaya, amour est conditionnel.
Thérèse n'a ma beau pas David
Mangaya,
ma fête à Batilo.
Radio de la paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur les 96.0 FM Radio de la Paix à Abidjan et ses environs. Bienvenue à tous. En titre de ce 7 heures, la justice ivoirienne a condamné hier à 10 ans de prison et à une privation de leurs droits civiques pour la même durée Damana Adiapikas et Kouah Justin du PPACI qui ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Et pour le renforcement de son réseau électrique, un prêt de plus de 18 milliards de nos francs a été accordé à la Côte d'Ivoire par une banque allemande, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly hier en fin de Conseil des ministres. Comment sécuriser l'approvisionnement en gaz naturel des pays de la sous-région? Le sujet a fait l'objet d'un atelier dont Serge Parfait Diomane, expert international en industrie pétrolière et énergie, reviendra sur les objectifs. Après qui, on va embrayer sur la revue des titres présentée aujourd'hui par Ghislain Koulibaly. Et en fin de journal, le président de la ACA, maître René Bourgoin, sera l'invité de la rédaction pour nous apporter plus d'éclairage sur le communiqué de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle interpellant les médias audiovisuels, les animateurs de débat et leurs invités après les éclats sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Voilà pour le sommaire. Le verdict est tombé hier. Le tribunal a condamné à 10 ans de prison et à une privation de leurs droits civiques pour la même durée Damana Adiapikas et Kouah Justin du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, tous deux qui ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés, à savoir l'atteinte à la sûreté de l'État, mercenariat et trouble à l'ordre public. De plus, une interdiction de paraître sur le territoire ivoirien leur a été imposée pendant 5 ans, à l'exception de leur lieu de naissance, Fresco pour Damana Adiapikas et Korogo pour Kouah Justin, qui peut également se rendre à Abidjan, son lieu de naissance. Les détails donc avec Jean-Mélène Bitti.
Maître Zadi Jonas, membre du conseil des avocats des prévenus Damana Adiapikas et Kouah Justin, a fermement dénoncé la décision du président du tribunal, qualifiant ce procès de politique.
C'est un verdict politique parce que ce sont des hommes politiques qui sont là et on dit dossier Damana Adiapikas et on sait son rôle dans la crise. On lui en veut pour cela. Ceux qu'on condamne ici sont des gens qui sont proches du président Laurent Gbagbo. Et vous savez, les élections, c'est pour bientôt. Donc quand on dit la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc c'est un procès politique.
Suite à la condamnation de ses clients, le conseil des condamnés a décidé de faire appel dès ce jeudi 13 février.
Celui-là même qui a reconnu les faits, qui a montré que son implication est sans ambiguïté, il est coupable de 5 ans de prison, pendant que ceux dont la culpabilité n'a pas pu être démontrée au-delà du doute raisonnable sont condamnés à 10 ans de prison, y compris les peines complémentaires. Pour nous, c'est une injustice qui est faite. Nous allons faire appel, on a dit à nos clients de le dire haut et fort, et nous allons faire cela afin que cela remette les parties où elles se trouvaient auparavant.
En marge du procès d'Anno Djedje, président exécutif du PPACI, a affirmé ne pas être perturbé par ces condamnations, soulignant l'engagement du parti dans la lutte pour la victoire de Laurent Gbagbo.
Nous sommes un parti de combat, nous continuerons la lutte malgré tout ce qui peut arriver. Aucun obstacle n'est infranchissable pour nous lorsqu'il s'agit du président Laurent Gbagbo. Il doit être candidat à l'élection présidentielle et qui va gagner les élections présidentielles. Donc vous comprenez très bien que toutes ces gesticulations sont faites pour nous maîtriser dans la peur, mais nous mènerons le combat avec nos avocats dans le cadre judiciaire, mais dans le cadre aussi politique.
Cet appel annoncé par le conseil des prévenus ouvre la voie à un nouveau feuilleton judiciaire qui s'annonce palpitant.
Et puis, en vue de la présidentielle d'octobre 2025, une équipe de l'ONG Indigo Côte d'Ivoire, une organisation non gouvernementale qui œuvre à la consolidation de la paix, s'est rendue à Divo pour évaluer le travail réalisé dans le département en matière de prévention de conflits par le cadre de collaboration locale, mais également préparer ses membres à de nouvelles activités de sensibilisation. En ligne de Divo, Abel César Cassin.
Le chef de la mission, le superviseur de zone à Indigo Côte d'Ivoire, le docteur en sociologie Kona Michel, donne la définition de cadre de collaboration.
Ce sont des mécanismes de prévention de la violence en période électorale.
Au terme des rencontres avec les autorités administratives et coutumières de Divo et de Didoko ainsi que bien d'autres animateurs de la vie communautaire locale, Voici ce qu'Indigo Côte d'Ivoire attend des populations. Docteur Kona Michel.
Éviter la production de la violence comme cela a été dans ces localités-là pendant des années. Et qu'aujourd'hui, chacun comprenne que aller aux élections, c'est un acte citoyen. Et que s'il y a des problèmes, leurs leaders, c'est à eux que cela revient de résoudre.
Le président du cadre de collaboration de Divo, le pasteur Anikaku, révèle un bout du travail à faire dès début mars.
Les communautés que nous allons rencontrer, nous allons leur parler de la paix, nous allons leur parler du rôle du guide religieux, le rôle du chef pendant les élections, les conditions dans lesquelles nous devons travailler. Travailler dans l'impartialité pour qu'il y ait effectivement au niveau des communautés les élections apaisées. Voilà les actions que nous avons déjà commencé à mettre en place. Il y a aussi les problèmes de conflits agriculteurs et éleveurs.
Soulignons que les membres du cadre de collaboration sont tous des bénévoles qui se sont engagés à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Entre autres points à l'ordre du jour, la ratification d'accords de prêt et le bilan de la Semaine nationale de la sécurité routière. Les conflits fonciers dans le Grand Abidjan ont été également abordés par la presse et Junior Cardin nous en dit plus.
Le Conseil a ratifié un accord de prêt de plus de 18 milliards de francs CFA avec la banque allemande KfW. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly.
Le financement objet de cet accord permettra de construire un équipement électrique pour renforcer le réseau électrique du district d'Abidjan, satisfaire la demande prévisionnelle des nouvelles zones industrielles de Bingerville et Akoupé-Zeudi, accroître le transit d'énergie vers l'intérieur du pays.
Concernant la sécurité routière, le Conseil a dressé le bilan de la stratégie nationale 2021-2025 et annoncé des mesures pour renforcer son efficacité.
Une baisse de 24% du nombre d'accidents, une baisse de 9% du nombre de morts et une baisse de 1% du nombre de blessés aussi. Diverses mesures portant sur le renforcement de la gouvernance et le financement de la politique de sécurité routière, le traitement des voies accidentogènes et la résorption des causes mécaniques ont été adoptées pour accélérer la mise en œuvre de la SNSR.
Face aux inquiétudes soulevées par la presse en lien avec les conflits fonciers dans le Grand Abidjan, Amadou Koulibaly a présenté l'attestation de droit d'usage ADU comme une solution pour mieux encadrer le secteur.
Tel que c'est expliqué dans le mécanisme de l'ADU, tous les lots sont préalablement identifiés et quand une ADU est délivrée, c'est aussitôt enregistré dans le système au ministère de la Construction. Personne ne peut venir délivrer une autre attestation sur ce même lot.
Sur la menace de grève des agents des collectivités locales, le gouvernement appelle au dialogue pour éviter toute perturbation dans l'administration locale.
Autre sujet dans ce journal, on parle d'éducation nationale avec la FENEPLACI, la Fédération nationale des établissements privés laïques de Côte d'Ivoire, qui réclame 118 milliards de francs CFA, le montant que l'État ivoirien doit donc à cette fédération. L'information a été donnée par leur porte-parole hier au terme de l'Assemblée générale ordinaire. Écoutons donc à cet effet Éphinis Tambéty.
L'Assemblée générale demande, premièrement, l'apurement dans les délais les plus brefs des arriérés de frais de scolarité de l'année scolaire 2023-2024 d'un montant de 118 milliards. Deuxièmement, le paiement sur le budget 2025 des différents passifs de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'enseignement général depuis l'année 2000, qui fait plus de 26 milliards. Troisième point, l'amélioration du processus de contrôle de l'effectif des élèves affectés, afin que puissent être établies les décisions financières dans les délais qui permettent le règlement des frais de scolarité des élèves affectés par l'État aux dates indiquées par la convention avec les établissements privés, à savoir le 30 mars, le 30 juin et le 30 septembre. Quatrième point, nous demandons à l'administration fiscale et à la CNPS de traiter les écoles privées avec bienveillance du fait de leur caractère social et des difficultés de trésorerie occasionnées par les importants retards de paiement des frais de scolarité dus par l'État, principal parent d'élève. Cinquième point, nous demandons au ministère des Finances et du Budget de réaliser l'équilibre des budgets alloués au règlement des frais de scolarité des élèves affectés et pris en charge par l'État.
Vous écoutiez le porte-parole de la FENEPLACI, la Fédération nationale des établissements privés laïques de Côte d'Ivoire et Finistan-Béti. Et puis à Korogo, la fuite des produits agricoles inquiète. Le préfet de région du Poro, préfet du département de la cité du Poro, est donc monté au créneau pour dénoncer cette fuite des produits agricoles ivoiriens vers les pays voisins. Tout en pointant la saignée économique engendrée par le phénomène, l'autorité préfectorale en appelle à la prise de conscience individuelle et collective, non sans inviter les uns et les autres à se démarquer de cette pratique véreuse. Écoutons le préfet hors grade André Eponon à Soumou.
Nous sommes une région productrice de produits agricoles. En tant que région productrice de produits agricoles, nous sommes confrontés à la fuite des produits agricoles. Nous avons perdu en 2021 plus de 7 milliards de francs CFA. Nous sommes passés de 90 000 tonnes à 51 000 tonnes dans la région. C'était presque inacceptable. Avec le concours des uns et des autres, nous avons pu remonter la pente. Aujourd'hui, nous sommes encore à près de 76 000 tonnes. Mais ce n'est pas suffisant. On produit plus que ça. Et il faudrait qu'ensemble, nous puissions sensibiliser nos populations, les acheteurs, les pisteurs, les planteurs, que notre production puisse progresser. Et nous avons raison de le faire parce qu'on a construit une usine de transformation dédiée à la nacre. Mais si nous acceptons de faire partir les produits vers les pays voisins, alors les usines qui sont là n'auront aucune raison d'y être parce qu'elles n'auront pas matière donc, à transformer. Je voudrais donc vous exhorter à faire en sorte que nous puissions donc permettre à notre pays de pouvoir conserver les produits agricoles que nous-mêmes nous produisons.
Les propos du préfet hors grade André Eponon à Soumou, préfet de région du Poro et préfet du département de la cité du Poro, ont été recueillis par notre correspondant régional Tommy Corona. Dans l'actualité internationale, on parle d'énergie durable avec la problématique de la sécurisation de l'approvisionnement en énergie des pays de la sous-région avec un focus sur le gaz naturel. Eh bien, cette question était au centre d'un atelier qui s'est tenu du 11 au 12 février à Lomé au Togo. Et cette initiative du groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement a réuni les ministres en charge de l'énergie des pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parfait, Serge Parfait Diomane, expert international en industrie pétrolière et énergie pour la Banque mondiale, donne ici les précisions sur les objectifs de cet atelier sous-régional.
Le sous-sol du continent africain est réputé détenir 125 milliards de barils en termes de réserves prouvées et 600 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Il s'agit de réserves primaires assez importantes pour un continent qui, paradoxalement, affiche un taux de couverture énergétique qui est l'un des plus bas au monde. Et donc, il s'agit en fait de fructifier tout ce potentiel énergétique naturel dont dispose le continent africain. Et cela fait suite au dernier sommet des chefs d'État qui s'est passé en Tanzanie tout récemment et qui était précédé par le sommet préparatoire de Lomé en fin d'année dernière pour définir et consolider la stratégie M300, qui est la mission 300, qui vise à doter déjà de la part de la Banque mondiale et la BAD 300 millions d'Africains de leurs droits d'accès à l'énergie. Et ce, étant entendu que le restant des 300 autres millions de personnes, il s'agira de trouver des stratégies avec des partenaires divers pour pouvoir satisfaire ces populations.
À l'instant, Serge Parfait, Diomane, expert international en industrie pétrolière et énergie. Sans transition, nous retrouvons la revue des titres de vos journaux parus ce jeudi. C'est avec Ghislain Koulibaly. Bonjour Ghislain.
Bonjour Linda, bonjour à toutes et à tous.
Alors, que disent nos journaux ce matin?
10 ans de prison, c'est le verdict concernant Damana Picasse et Kwa Justin. Ils ont été condamnés par le tribunal de première instance d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. Le patriote déclare la justice. justice frappe fort. Damana Picasse et Kwa Justin prennent 10 ans de prison ferme. Cette sentence s'applique aussi à Lagui Iko, député suppléant. Selon La Voix originale, le quotidien d'Abidjan se pose cette question. Pourquoi le régime tente de neutraliser ses leaders de l'opposition? Le même ton est donné avec Le Temps qui écrit « La justice distribue 10 ans à Picasse, Kwa et Iko Lagui ». Le journal parle d'un musellement de l'opposition. Un encadré indique même un verdict à forte odeur politique. Et puis on a la réaction de Daniel Djegé, cadre du PPACI, qui s'exprime en ces termes. On va continuer le combat, indiquant que le parti ne compte pas baisser les bras. L'avocat de la défense, Maître Zadi Jonas, indique que ces décisions sont le reflet d'une injustice flagrante, pathétique, inique. Notre voix en parle également et nous informe aussi sur le verdict du procès de l'attentat de Grand Bassam avec ce titre, la perpétuité requise contre les accusés. Qu'est-ce qui s'est passé à Boaké hier? L'intelligent d'Abidjan nous propose un récit de ce qui a plongé la population de la capitale du Boaké dans la peur. Dernière heure, monde écrit, maison pénale de Boaké, des révélations sur ce qui s'est passé. Et puis Linda, pour terminer, focus sur le Conseil des ministres d'hier avec Soir Info. On apprend que plusieurs mesures ont été prises concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l'amélioration du dispositif sanitaire également. Et cela s'entend à travers ce titre de Fraternité Matin, Conseil des ministres, les grandes décisions, l'Institut de cardiologie de Boaké bientôt ouvert, un groupe de surveillance financière créé pour faire face au blanchiment des capitaux. Et en ce qui concerne l'énergie, le renforcement du réseau électrique d'Abidjan était aussi à l'ordre du jour. Et Fraternité Matin nous conduit dans l'univers de l'intelligence artificielle avec cette charte adoptée en France lors du sommet sur l'IA. Le développement, le déploiement et la gouvernance de cette technologie doivent se faire dans l'intérêt général.
Merci à vous, Ghislain Koulibaly. Et on pourra vous retrouver dans l'édition de 8 heures pour le même exercice. Dernière articulation de ce journal, l'invité de la rédaction avec la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, AACA, qui a rendu public mardi un communiqué dans lequel elle invitait les médias audiovisuels, les animateurs de débats et leurs invités à redoubler de vigilance et à faire preuve de modération dans leur prise de parole afin de garantir un dialogue constructif et respectueux, et ce, après l'incident sur la chaîne de télévision, la nouvelle chaîne ivoirienne Maître René Bourgoin, président de la AACA, est l'invité donc de la rédaction et il vient pour apporter plus d'éclairage sur ce communiqué. Il répond aux questions de Nelly Dali. René Bourgoin, bonjour.
Bonjour madame.
Alors la Haute Autorité de la Communication de l'Audiovisuel, AACA, vient de rendre public un communiqué invitant les animateurs de débat à un discours modéré, respectueux et courtois dans les émissions de débat diffusées sur les médias audiovisuels. Quelles sont les raisons qui ont motivé la rédaction et la diffusion de ce communiqué?
La diffusion de ce communiqué résulte d'un constat fait par la AACA sur les émissions de débat qui comportent des propos inappropriés et voire même injurieux à l'encontre de personnalités publiques et d'institutions. Donc nous, la AACA, en notre qualité de régulateur du secteur de la communication audiovisuelle, nous pouvions laisser prospérer de tels agissements sur les médias audiovisuels, d'où les raisons de la rédaction, de l'élaboration et de la diffusion de ce communiqué.
Des sanctions sont-elles prévues en cas de non-respect des directives énoncées dans ce communiqué?
En ce qui concerne les sanctions, il faut noter que si une chaîne de télévision, malgré ce communiqué, venait à outrepasser les principes qui y sont rappelés, il est clair que la AACA lui infligera les sanctions prévues par la loi. Lesquelles sanctions? Vas-y. Partent de l'avertissement jusqu'au retrait pur et simple de l'autorisation d'exploiter le service de médias audiovisuels.
Doit-on voir dans ce communiqué, Président, une invitation de la part de la AACA à l'endroit des médias organisateurs d'émissions de débat à faire preuve de plus de rigueur dans le choix de leurs invités?
Non, il doit être compris de tous que la AACA n'interfère pas dans le choix des invités. Elle ne le veut pas, elle ne le peut pas. Cela relève de la responsabilité des chaînes de télévision elles-mêmes. Toutefois, je pense qu'au cours des émissions de débat, il faut inviter les participants à faire preuve de modération dans leur prise de parole et à respecter scrupuleusement les règles de courtoisie lors des échanges. Nous invitons bien sûr les animateurs de ces émissions à redoubler de vigilance dans la conduite des débats, et cela pour garantir un dialogue constructif et respectueux. Cela est très important parce que nous entrons dans une période de tension qui peut amener à des tensions sociales. Un climat politique délétère peut être envisagé. Donc il faut que déjà toutes les institutions concernées agissent de façon à apaiser le climat politique. Et c'est l'objet de ce communiqué. Nous avons voulu, de façon préventive, amener les éditeurs de télévision, à l'occasion des débats que leur chaîne organise, à plus de responsabilités.
Alors, vous l'avez dit, surtout que nous sommes en année électorale, est-ce que ce communiqué pour leur dire « attention, nous sommes en année électorale », il ne faudrait pas tenir certains propos pour attiser les tensions?
C'est exactement cela, c'est dire aux médias audiovisuels, les inviter à remplir leur mission d'information avec professionnalisme et responsabilité, l'un étant d'ailleurs le corollaire de l'autre.
Vous avez parlé d'émissions débat. Il nous arrive parfois d'être dans des émissions débat en direct, où l'invité, par exemple, fait une sortie. Quelle attitude doit avoir cet animateur qui est déjà en direct?
Il n'a jamais été facile d'organiser une émission de débat qui a des connotations politiques. Il est clair que lors de ces émissions de débat, l'animateur de l'émission peut être confronté à certaines situations qui peuvent être déstabilisantes. L'ACA le reconnaît, mais le professionnalisme de l'animateur provient de ce qu'il doit, dans un tel cas, maîtriser l'antenne. Quand l'antenne n'est pas maîtrisée, il y a ce qu'on appelle un défaut de maîtrise d'antenne. Mais une antenne est maîtrisée dès lors que l'animateur fait des rappels à l'ordre. Mais si, malgré les rappels à l'ordre, les choses continuent, l'animateur peut retirer purement et simplement la parole à l'invité.
Si l'animateur, par exemple, a fait son travail, que cet invité qui est en direct insiste pour tenir des propos pas très présentables en direct, et à qui cette sanction s'applique?
La ACA peut juger des propos d'un invité. À partir de ce moment-là, peut être amené à prendre une sanction contre l'animateur qui relève de sa juridiction, mais pas contre l'invité. Nous n'avons pas vocation à sanctionner des invités. La sanction s'applique aux médias, pas à l'invité. Maintenant, s'il s'agit d'un chroniqueur, on peut être sanctionné. Et puis, à l'ACA, nous ne faisons pas de politique, et c'est pour cela que la loi a prévu que cette institution soit indépendante. Donc, nos communiqués doivent être appréciés d'un strict point de vue technique régulatoire. Ça, je voudrais que la population comprenne cela. Ça, je tenais vraiment à le dire parce que je reçois certains retours. Et le moins que je puisse dire, c'est que les retours sont très positifs. La majeure partie de la population ivoirienne qui est mature comprend très bien le sens de ce communiqué de l'ACA. Et il était bon qu'il soit pris à ce moment précis pour apaiser les tensions.
Merci, Maître René Bourgoin.
Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.
C'était Maître René Bourgoin, président de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Invité de la rédaction aujourd'hui, il répondait aux questions de Nelly Dali. C'est la fin de ce 7 heures, le rappel de l'essentiel. La justice ivoirienne a condamné hier à 10 ans de prison et à une privation de leur droit civique pour la même durée Damana Diapika et Kwa Justin, qui ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Et puis, pour le renforcement de son réseau électrique, un prêt de plus de 18 milliards de nos francs a été accordé à la Côte d'Ivoire par une banque allemande, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, hier, en fin des conseils de ministres. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 8h.